ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission d'avril. Après un mois de mars plutôt dense en rendez-vous poétique, le printemps des poètes est désormais derrière nous. Mais fort heureusement, la poésie reste au programme de Radio B tout au long de l'année. Et je vous propose aujourd'hui un florilège composé de textes que j'ai choisis dans une anthologie parue en janvier de cette année aux éditions Segers et intitulée « Esprit de résistance » avec en sous-titre « L'année poétique, 118 poètes d'aujourd'hui ». Pour vous situer le propos de cet ouvrage, voici ce qu'on en dit dans la préface. Cette anthologie entend redonner vie à l'année poétique, publication restée mythique pour tout passionné de poésie, autant dans les années 1970 que 2000, et sous d'autres titres dès les années 50, comme les poèmes de l'année d'Alain Bosquet. Ce livre des éditions Segers s'était donné l'ambition de dresser le bilan d'une année de création poétique en langue française. Il a permis à des générations de découvrir des poètes contemporains venus de tous les horizons de la francophonie, et même au-delà, certains ayant délibérément choisi d'écrire en français. Esprit de résistance, thème retenu en pensant certes à notre époque chaotique et menaçante, mais aussi à Pierre Segers, 1906-1987, lui qui sut si bien, tout au long de sa vie, hisser la poésie au rang d'art insurgé. Résistant de la première heure, il n'aura eu de cesse de servir la poésie, de traquer le feu sous la langue. Liberté, liberté, j'écris ton nom. Dès sa mobilisation en septembre 1939, il crée une revue dans laquelle il réunit les plus grands poètes de la résistance, dont ses amis Aragon, Paul Éluard, Loïs Masson ou René Char. En 1944, il crée la collection Poètes d'aujourd'hui, novatrice autant par son format que par son concept, qui rendit la poésie accessible au plus grand nombre. Si la poésie est main tendue, selon Paul Celan, elle résiste aux convenances, aux discours dominants. Lieu de remise en jeu permanente de la langue, elle s'oppose fermement à l'impérialisme du sens, à un monde trop rationnel, à une ère de cynisme et de médiocrité sublimée. Pour éprouver le monde et la vie commune, elle entend appréhender le réel dans ses failles, quitte à tordre la syntaxe. Si elle n'est pas forcément engagée, elle stimule l'inconscient, s'oppose à la paresse éventuelle d'une langue menacée, permet d'entraîner son évolution. Vitalité, énergie. Elle s'insurge souvent, se mutine, proteste. Ainsi, c'est un parcours poétique et musical que je vous invite à faire en ma compagnie et en compagnie de 12 auteurs parmi les 118 de cette anthologie, avec des poèmes qui ont certes chacun leur spécificité, mais en même temps offrent, à travers leur diversité, un instantané poétique de notre temps. Avant la lecture du poème, je vous dirai deux mots de son auteur que je puise dans les notes biographiques proposées à la fin du livre. Quant à la musique, le mot « résistance » m'a orienté vers un compositeur qui, en son temps et en son pays, savait très bien ce que ce mot voulait dire. En effet, Dmitri Chostakovitch, qui a vécu en URSS sous Staline, a non seulement composé une merveilleuse musique, mais surtout il a dû composer avec un régime totalitaire qui censurait les artistes et opprimait le peuple. Néanmoins, il a résisté et a produit quelques-unes des plus belles œuvres du XXe siècle. C'est donc avec certaines de ses œuvres que nous cheminerons aujourd'hui et je vous donnerai les références des morceaux en fin d'émission. Commençons par une thématique qui a de tout temps concerné les artistes en général et les poètes en particulier. Quel sens donner à sa pratique artistique, et en l'occurrence, pour les poètes, à l'écriture? Voici un premier texte d'Olivier Barbaran, né en 1966, qui a dirigé l'édition de l'œuvre poétique d'Aragon dans la Pléiade, et dont on peut trouver les recueils aux éditions Champvallon, au Vent-Ternier, chez Gallimard. un texte qui sonne comme un manifeste en éclairant le concept de résistance en littérature. Et ça s'appelle « Résister à l'ère du temps ». Rien de plus grand, peut-être, que la résistance poétique. Elle a, comme sa sœur d'électricité, une puissance, une fulgurance qui lui permettent quelquefois d'ouvrir, dans le mur opaque de l'histoire, des brèches de clarté. Rien de plus dérisoire que sa caricature. Ni l'ordinaire découpe de quelques mots d'ordre au ciseau de vers approximatifs et proclamatoires, dits libres ou non, ni le catéchisme contestataire d'une époque n'ont jamais résisté à quoi que ce soit. On en a vu qui, pétitionnant de concert contre tel ou tel mal-pensant, avaient l'impression de vivre leur guerre d'Espagne. Suivre l'air du temps, le front pur et la lèvre haute, en mimant l'héroïsme des vraies tragédies, en se pourléchant collectivement de se retrouver dans le camp du bien, relève de l'onanisme collectif. Chacun y jouit piteusement de se reconnaître d'accord avec son public. Les contestataires professionnels ont leur cible. Or, on n'écrit vraiment qu'en écrivant pour personne. On écrit pour les absents, pour les instants qu'il faut sauver, plonger dans l'ambre de la mémoire, pour les corps aimés, toujours un peu disparus. La résistance suppose la consistance. Il s'agit de donner à la langue, prostituée chaque jour dans l'ordre du discours, la puissance libératrice d'une parole. Elle suppose une singularité de voix, de ton, de propos. Aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit de laver le linge sale du langage pour qu'il puisse, parfois, en de rares et précieux moments de justesse, à nouveau présenter quelque chose du monde. À ce titre, toute beauté fait résistance. Aucun sujet n'est prescrit ni proscrit. Encore faut-il que, dans le poème, la langue, de nouveau, consiste, qu'elle ait une épaisseur, une fruition, une incarnation. À la langue d'inox de la technostructure, opposons une langue vivante. Quoi qu'elle dise, il lui suffit justement de dire pour débrouiller le brouillard des mensonges, des faux-semblants, du néant surpeuplé de nombres et de mots creux dans lequel nous baignons. Le reste ne dit rien. C'est à peine s'il évoque. Le plus souvent, il recouvre, encombre, fait du tapage. Consister suppose exister. Vivre en n'étant pas tout à fait aveli par l'ordre du discours, la société du spectacle et l'ère de la marchandisation généralisée, c'est résister. Puis, trouver la parole pour réverbérer ces grappes d'instants, ces vues exactes, ces moments véritablement vécus. Vivre avec attention. Respirer, regarder, toucher. Aimer, aimer surtout. Toute vie pleinement perçue et justement dite dans notre cloaque étourdi et assassin constitue pour la poésie la véritable résistance. Lavandière de la langue, occupée aussi à maintenir, je revendique une poésie de persistance. Soucieuse de fondre dans l'or d'une langue la parole d'une vie, ce serait déjà beaucoup si, au lieu de quelques cris vindicatifs et insignifiants, la chair des choses, celle des êtres, rappelait dans les mots la présence d'un monde. Le monde, ce crucifié dont la tendresse vigilante d'un ver arracherait les clous, rouvrirait les paumes. Et je m'y frotterais, comme jamais, existant, consistant, résistant. Louise Dupré est québécoise. Elle est née en 1949, a reçu de nombreux prix au Canada et elle est notamment l'auteur d'une trilogie publiée chez Bruno Doucet, « Plus haut que les flammes »,« La main hantée » et « Exercice de joie ». Au bout de tes doigts. Au fond du noir, tu aperçois une main. Une main ouverte, comme une étoile, prête à tenir tête au frémissement de l'aube. Bientôt, tout recommencera. Les gazouillis dans les feuillages, les cris des écoliers, et les voix rougies qui dissimulent leur chagrin. Encore une fois, le jour s'acharnera à éteindre la vie. Mais tu te lèveras, tu t'habilleras et tu répéteras tes gestes sans riposter, sauf dans des poèmes que tu griffonneras, les ongles tachés par l'encre de ton enfance. Les mots, tu le sais, n'attendent pas de rédemption. Ils se présenteront devant toi, sales et nus, et tu ne les plongeras pas de force dans la lumière. Tu les remercieras de ce qu'ils peuvent t'offrir. Tu as peut-être perdu ta foi, mais il te reste un horizon lové sous la peau, que tu appelles parfois refus, parfois espérance. Quand tu troques ta résignation contre l'audace, tu renieras alors les images trop polies qu'on t'a enfoncées sous le crâne et tu partiras seul, au hasard, cueillir dans les échappées du silence ce rien qui scintille encore la nuit au bout de tes doigts. Comment vit-on dans le monde ? Comment s'en accommode-t-on ? Ou comment lui résiste-t-on ? Deux poèmes de tonalités complètement différentes pour approcher cette question. Le premier est de Julien Bert, né en 1964, qui est chanteur, musicien, réalisateur musical et photographe. Il publie aussi dans la littérature jeunesse, notamment trois livres CD écrits avec Philippe Catherine. Le second, que vous entendrez à la suite, est d'Annie Lebrun, née en 1942 et décédée en 2024, qui a pris part au mouvement surréaliste. Son dernier ouvrage publié en 2024 chez Gallimard s'appelle « Ombre pour ombre ». Garde-robe. Soudain militant et pris dans l'air du temps, tu choisis tes idées un peu comme des vêtements. Tu défends la nature, une belle paire de chaussures, protèges les animaux, des gants et un chapeau. Soutiens la Palestine, ce pull dans la vitrine, et la cause féminine, une nouvelle paire de jeans. Tu réponds, ennuyé, il faut bien s'habiller. « civilisation. Masque d'eau et de lèpre neuve. Entre les dentelles de la poussière, les ailes de la puanteur battent sourdement. La clarté prisonnière se rue contre les portes qui s'obscurcissent. Boule de haine, éperonnée d'acier, la folie rôde en remous d'absence. Le matin a des parures d'or évasif et de muqueuses fraîches. Sur le lit des choses, il ne reste que le satin broché. Des flaques de pauvreté, on cherche seulement une échappée à la sanguine. Lettre à mon corps. Qui dirige l'orchestre? Ça pince ici, mon corps. Vibre là, résonne à gauche, claque à droite, frissonne au premier rang, teinte au dernier, attaque en bas, tambourine en haut, frotte sur les côtés. Qui dirige? Personne. Ton ensemble se débrouille tout seul. Qui signe la partition? Bribes et traces de gamme, solo de ton cœur, duo de tes poumons, silences et suspensions décrochées de la portée, staccato ou dolce de tes douleurs, allegro de tes émois, blanches et noires de tes rythmes, clé changeante de tes âges, tonalité modulée de tes clairs-obscurs, soupir que l'heure de ta disparition effacera. Qui signe, qui dirige ? Personne, mon corps. Sinon, l'anonyme persévérance du vivant. Comme tout un chacun, tu n'y échappes pas. Alors autant en faire un jeu. Quelques bilans, un parcours médical qui t'affiche, mon corps, en pièces de puzzle. Montagne russe de l'électrocardiogramme. Défilement de chiffres comme sur une machine à sous. Du tensiomètre. Compte-rendu d'analyse sanguine avec ces mots insolites en Y, H ou Z pour briller au Scrabble. Et cette chance à l'envers, quand rien n'apparaît sur le gratté gagné du frottis vaginal. L'imagerie surtout te divise en morceaux. IRM, on met en fiche tes vertèbres. C2, C4. Et ton début d'arthrose joue à la bataille navale. Rayon X, 1, 2, 3, soleil. Cache-cache dans tes bronches. Heureusement, sans l'ombre d'un bourgeon. Et parcours de marelle, heureusement, sans cailloux à enjamber dans les deux cases de tes seins. La partie durera le temps qu'elle voudra. Pour peu de choses, un sinus encombré ou un abcès à la gencive, tu connais maintenant ta propre tête de morte. Radiographie plus souriante qu'au scanner, qui couperait en deux le fruit de ton crâne. Vient-il du temps ? Vient-il de l'espace ? Mouvement de balancier dont le mécanisme se refuse à ta compréhension. Les jours de grand large, tu respires, tu t'élances, tu coïncides. Les jours de retrait, tu rétrécis, tu t'assèches, tu t'aigris. Les jours confiants, tu te dilates. Ta plénitude, mon corps, d'éléphante heureuse, trompe à gauche, puis à droite, oreille en avant, puis en arrière. Les jours amers, tu te ratatines. Ta crispation, mon corps, de coléoptère figé sur place, accroché à l'oscillation d'une tige, son énervement d'élytre surchauffé. De jour en jour, de la veille au lendemain, de jour racorni en jour d'ampleur, tu suis l'écho de ton cœur. Notes avares, une horloge étriquée de salon, ou notes en cascade, une volée de carillons ouverts à tous les alléluia du monde. Et ton ombre, ne l'oublie pas. Elle qui au moins s'impose si peu, ne te demande rien, ne te retire rien. Elle se contente de se conformer entièrement à toi. C'est sa seule raison d'être. Elle te suit, absolument docile. Ton chien, comme dit la chanson. Ne sois pas injuste avec elle, mon corps. Ne l'oublie pas, ton ombre. Il lui arrive, sa seule indépendance, d'être plus grande que toi ou plus petite, plus droite ou plus oblique, plus étirée ou plus tassée, en tout cas toujours moins épaisse et bien plus souple. Quand elle disparaît, c'est qu'elle est entrée en toi complètement. Un ectoplasme, l'ectoplasme de tes formes. Ne l'oublie pas. Cet éternel fidèle. Parmi les ombres définitives, il n'y aura plus qu'elle, devenue pour toujours l'ombre de ton ombre. Vous venez d'entendre un texte de Patricia Castex-Meynier, née en 1956, qui a publié de nombreux livres de poésie chez Chêne, L'Armourier, Vincent Rougier, Almanard et d'autres maisons d'édition. De corps aussi, il est question dans les textes suivants de Gaël Fonlupte, des corps violentés, massacrés, ceux des enfants, des femmes et des hommes internés dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Des textes dont chacun est dédié à l'une des femmes citées dans l'ouvrage documentaire de Shoshana Boukobza, paru en mars 2024. Gaël Fonlupte est romancière et poète. Elle a publié son premier recueil de poésie « À la chaux de nos silences » en janvier 2023. À Rosa Robota, Birkenau, 7 octobre 1944. Elle en a vu tant, noyée dans un seau, jetée aux ordures, encore vivant, quand il n'avait pas été piqué au phénol en plein cœur, des bébés de toutes les nuances de bleu, de vert. Ici, ce n'est pas un jardin d'enfants. Elle en a vu tant, empilés dans les allées, forêts tronçonnées de corps pris par la glace ou mangés par un soleil chauve en attendant que les camions passent. Alors, quelques grammes sous les ongles, les jupes, quelques grammes seulement de poudre noire, car tout sera pesé à la fin de la journée par les contremaîtres, les corps fouillés par les capots dans tous les interstices. 2 petites cuillères par jour et 8 mois pour faire sauter un four. À Francis Mangeltak, Auschwitz, 11 février 1943. Vous nous avez rasés, ouvertes au couteau comme des huîtres, étonnées de nos peaux blanches. Même éventrés, nous répondons à chaque crachat. Vous ne pouvez nous tuer qu'une fois. À Katia Singer, Birkenau, 1943. Comparer les listes chaque nuit, intervertir un chiffre, un seul, et donner à une vivante le matricule d'une morte, minutieusement, 3 par jour, pendant 2 ans. À Bertie Albrecht, 31 mai 1943. C'est la fin du combat. En rêve, un corbeau colonise ses yeux, son ventre, son cerveau. Elle a ouvert tant de voix, tant de faim, un geste encore pour ne pas que la langue capitule. Je vivrai sur la corde qui vient mourir en toi. À Olena Bilozerska, 2024. Ils échangent quelques mots, une soupe, le temps du lendemain, les heures de relève. L'essentiel ne peut se dire. L'un a un staccato mitrailleur poinçonné dans la tête. Un autre dessine une Pietà aux lèvres de vin. Elle revoit ce bus jaune poussin aux allures de clown triste éclaboussé sur la fenêtre. L'essentiel ne peut se dire. Il partage le pain.
Каково родила она мальчика, мальчика, а как назвали Мойшеле, Мойшеле, а в чем качали Мойшеле клюньки, а чем кормили хлебом да луком, а где
l'homme fut possible. Ses mains, celles d'un ouvrier, l'ont sauvé pendant la guerre. L'ont sauvé du pays des sans noms, quand les gardiens l'appelaient par un chiffre, les autres par son prénom. Quand ses mains s'élancèrent vers une pelure de pommes de terre, tombé par terre, jeté par un gardien à la gueule de ses yeux. Un vieil homme le retint par son regard et lui rendit la vie. Quand ses mains rendirent à la terre la pelure de pommes de terre, et les yeux du vieil homme au ciel, où il irait en passant par le feu de l'enfer. Aujourd'hui, ses yeux racontent ce jour où, malgré la nuit, dit cet homme avec ses mains, l'homme fut possible. Je le vois qui voit au loin les mots, ces mots qui avancent pas à pas, comme sortis du corps, à la force du poignet et des souvenirs, si douloureux qu'il lui faut beaucoup de silence entre chaque mot. Je le vois qui ne voit rien, sinon le tout de ce qui s'est passé là-bas. Je le vois comme je les ai vus, ceux qui ont survécu de là-bas. Un seul visage et plusieurs vies, car plusieurs morts auxquelles ils ont échappé par hasard, par chance, à une seconde près, à un homme, à une femme près, quand ils leur ont donné à temps ce qui manquait. Je le vois dans son immense humanité, celle d'où venaient aussi ses bourreaux. Ce poème de Yvon Le Maine fait évidemment écho aux précédents et, comme eux, est un éloge de l'humain lorsque, confronté à la sauvagerie, il parvient à la surpasser. Yvon Le Maine est né en 1953. Il écrit et dit ses textes depuis 1974. Il a ouvert un espace dédié à la poésie au festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo et il est publié aux éditions Flammarion, et chez Bruno Doucet. XXIe siècle. Je ne suis pas un homme du XXIe siècle. Car que m'a-t-il apporté jusqu'à maintenant, à l'échelle individuelle, en dehors de quelques nouvelles avancées de la science, la découverte d'une poignée de bons auteurs et de rares œuvres d'art. Quant à l'échelle humaine, inutile que j'en rajoute. La coupe n'est pas seulement pleine, elle déborde. Et de quoi ? D'une quantité de sang humain qui pourrait faire refleurir un, deux, trois déserts. De folies jadis inimaginables, comme de défricher au bulldozer les tombes des ennemis qu'on a récemment trucidés. De manipulations grossières pour ôter de la langue la pensée et de la raison l'intuition, pour souder la ferraille rouillée du mal à la soie grège du bien. Cela dit, je n'irai pas jusqu'à faire l'apologie du XXe siècle. Ce constat amer, c'est celui de Abdelatif Lahabi, poète né au Maroc en 1942, dont le combat pour la liberté lui a valu d'être emprisonné dans son pays, et qui vit en France depuis 1985. Il est édité au Castor Astral et chez Gallimard. Comme en écho à la pensée d'Abdelatif Lahabi, voici un texte de Jean d'Amérique, notre invité haïtien présent tout récemment à Bourg-en-Bresse pour le Printemps des Poètes, et dont vous pouvez retrouver le portrait dans mon émission de février. Le texte que vous allez entendre dit aussi la violence, le sang versé, avec néanmoins la conviction que le sacrifice ne sera pas vain et que viendront des jours meilleurs. Cadavre fleur. Je suis mort à l'aube. Au lieu de boire leur café qui maintenant s'est refroidi, mes amis sont partis chercher un drap blanc pour couvrir mon corps. Tout à l'heure, elles feront la quête pour m'acheter un cercueil. Et, paupières barbelées dans la nuit gelée, elles prieront jusqu'à déjouer ce songe effroi. Moi, cadavre, moi, lambeau du devant jour. Les passants détournent leurs regards, mon sang les saigne. Les larmes fuient à ma vue. Et comme un fardeau, la foule me déserte. Même les mouches refusent de se poser sur moi. Et la ville se tait, de douleur peut-être, ou de peur. Si peu de bouches pour me pleurer. Autour de moi, seulement le silence, ce si beau linceul. Me voici allongé au milieu de cette rue où je suis né pour mourir. Ma plaie a crevé ses limites. Les ténèbres entrent en moi pour survivre. Ma viande entonne déjà son chant charogne. Sous ma peau, tous les feux éteints, les drapeaux baissés. Voici la douleur qui vient déposer un dernier bouquet de fleurs sur mon corps criblé d'ombre. Le soleil se couche à mes côtés. Sa lumière se mêle à mon sang pour ressusciter la beauté. Quelque part dans la ville, appuyés sur leurs fusils, mes bourreaux trinquent à ma mort, ignorant qu'une balle jamais n'arrachera le cri d'un oiseau, que le bruit du sang versé pour la seule fin de la blessure jamais n'engloutira le cœur qui joue la partition du poing levé. Paix sur vous, mes amis, et gardez la gorge ouverte aux cris. Même si le ciel ferme ses fenêtres et qu'à l'envers l'horloge tourne, mon souffle, mon squelette brisé, ne cédera pas à la poussière. Il hantera à jamais les monstres. Mon cadavre toujours fleurira d'une invincible putréfaction. Mes veines, arbres en crise, donneront leur sève à la saison vertige pour que demain soit vie, pour qu'une flamme se lève dans nos chairs obscures. Antoine Mouton est né en 1981. Il est poète, romancier et nouvelliste. Il est publié à la Contre-Allée chez Ypsilon et Christian Bourgois. Chaque fois que je trouve un de ses textes dans une anthologie, je suis attirée par l'originalité de son écriture et cela se vérifie une fois de plus avec le texte qui vient et qui touche par ce mélange de légèreté et de gravité qui colle tellement bien aux interrogations qu'on a tous à un moment ou à un autre de nos vies. Un jour, je trouve un mur au milieu de ma vie. C'est peut-être moi qui l'ai placé ici. Sur le mur, je reconnais des signes familiers, des gribouillis conformes à l'idée que je me faisais du futur. Alors, c'est sans doute moi qui l'ai construit. J'ai tout fait pour qu'au milieu de ma vie, un mur se dresse. J'ai œuvré dans ce sens. Droit dans le mur, j'ai vécu. Depuis le début, je m'efforce de l'ériger à distance pour qu'il m'arrête enfin, à mi-chemin. Depuis toujours, je pense que la moitié du chemin pourrait tout aussi bien être la fin. Je finis toujours mon assiette, mais je pourrais aussi bien décréter qu'une demi-vie suffit. Si je ne suis pas libre de penser ainsi, la vie ne m'intéresse pas. La vie ne me va que parce qu'elle pourrait s'achever. Il n'y a pas de durée idéale pour ma vie, alors qu'il y a une quantité de nourriture parfaite pour mon assiette. De toute façon, je mange tout ce qui s'y trouve. Mais pour la vie, c'est différent. J'en laisserai bien un peu. Il y a à boire et à manger. C'est pourquoi j'ai posé ce mur au milieu, pour ne pas voir tout ce qu'il reste à vivre, pour ne pas me laisser obséder par la somme des années à venir, pour mieux considérer toutes celles qui sont déjà passées et peut-être les revivre. Face au mur de ma vie, revivre le passé par la pensée, les souvenirs, le rêve, la parole, les récits, inventer le récit du passé, le regarder droit dans les yeux, avoir une histoire, la perdre, en faire une autre histoire qui contiendrait la perte de la première, se détacher du temps, entrer dans la durée, flotter par-dessus la vie, pas dedans comme dans un bocal, pas se laisser entraîner par les courants, poser un rétroviseur à côté du cerveau, un épouvantail dans le corps pour que les fantômes s'enfuient, et traquer les voix dans la voix, les détourner, et dire ce qu'elles diraient si on les laissait faire, et faire ce qu'elles oublient de dire. Il y a des années que j'ai traversé sans les vivre. Je collectais des pierres pour le mur au milieu de ma vie. Je voulais désigner l'impossible et dire « ça ne passe plus, halte là au milieu de la vie ». J'ai trouvé quelque chose et ça ne passe plus. Savoir ma vie par cœur, tout faire pour la retenir, puis l'oublier et ne plus jamais me retenir de vivre. Je voudrais mourir dans un endroit gratuit, sans menu affiché sur la porte, sans activité poterie, sans voisin qui délire, sans couloir blanc nauséeux, sans papier à signer pour sortir. Dans un endroit calme, où personne ne s'affaire à sauver personne, où chacun accomplit amoureusement ses rites, où l'on joue aux échecs dans l'herbe molle, sans s'occuper des gens qui partent ou qui arrivent. Un endroit ouvert, où l'on entend les bruits qu'on affectionne, où l'on porte à sa bouche les goûts familiers, où chacun comprend ce qui arrive et le fait par quelque suprême paix tout à coup gagnée. Où les vivants font des siestes tranquilles, étendues au-dessus des morts. Où les morts, rassurés, sentent peser sur eux le corps chaud des vivants. Et les âmes de tous commencent des parties de pétanque avec des rires de vent frais. Un petit texte irrévérencieux de Pauline Picot, née en 1990. Pauline Picot est poète, performeuse et dramaturge. Sa pièce intitulée « Votre âme sœur est peut-être dans cette forêt » a été mise en espace au Théâtre du Rond-Point. Et je vous conseille de lire son dernier recueil publié chez Vroom et intitulé « Permettez-moi de palpiter », qui est très enlevé et joyeusement acerbe pour traquer les vicissitudes dont nous sommes l'objet. Voici maintenant un dernier texte de Christian Viguier, qui est né en 1960 et qui est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages allant du théâtre à la poésie, en passant par les romans, les nouvelles et les récits. Il est publié chez Rougerie, Le bruit des autres et à la table ronde. C'est un texte qui engage à être plus présent à tout ce qui nous environne, à savourer l'instant, à regarder autrement le monde, autrement dit, à résister à la banalité et vivre en poésie. Cela a l'air idiot, mais je donne un nom aux pierres, aux feuilles qui tombent, au regard des enfants, des femmes et des hommes que je croise. Je redonne les noms aux morts pour que leurs noms pépillent comme des ombres et s'allient au chant des merles. Je donne des noms au silence, au bruit de l'eau, aux pétales étonnés d'un myosotis, au mouvement des choses, à une fenêtre qui s'ouvre, au nombre de pas qui sont à la fois les pas et les yeux du chemin, à nos mains qui, pour caresser ou saluer, laver verres et assiettes, ont tourné mille fois autour du soleil, juste pour être dans ce monde. Je donne des noms aux noms, car ils sont paupières et clés, pattes d'encre et d'oiseaux, et plus sûrement ce cahier provisoire et imprévisible sur lequel nous n'avons pas encore écrit. Il y a un abîme et un calme miraculeux lorsque l'on dit « Je suis là ». J'essuie une assiette. Mon regard est attiré par un vol de grues. Une eau sale tourbillonne dans mon évier. Mon enfance a traversé jardins et champs et je me souviens de la couleur d'un iris quand il touchait le ciel orageux. Je prends conscience que ce n'est pas ma pensée, mais ma distraction qui relie et différencie toutes ces choses. Dans ma tête, il n'y a pas de grenier, pas d'ombre, seulement le passé, le présent et le futur, qui sont des lampes utiles. Il n'y a aucun mystère enfoui dont pourrait s'accaparer une quelconque science. Il y a ce désir de danser et d'accoler ce qui existe. Une chaise avec une rivière. L'absence d'une femme avec le chant d'un rouge-gorge. La manière dont je mourrai avec un brin d'herbe ou avec le pas d'un inconnu dans le sable. La nuit avec le cul cabossé d'une poêle. Et si secret il y a, si jamais on voulait encore croire à un secret, il s'agirait simplement de mettre en écho les choses entre elles. Et pour toute explication, s'en tirer avec une pauvre métaphore comme par exemple réinventer le bruit d'un ruisseau qui se moquerait éperdument de savoir s'il file vers la prairie, vers un fleuve ou vers la mer. Aujourd'hui, j'ai bu un verre de blanc avec un ami. Il m'a raconté plusieurs histoires. Il visite les vieux cimetières, s'assoit près d'une tombe et parle au hasard avec un mort. Il lui dit qu'il aime bien le jour, car il ressemble à un lézard qui se faufile et disparaît derrière la fissure d'un mur. Il demande au mort s'il se souvient de la forme d'un nuage ou d'une pierre, de la danse des iris près de la rivière, de son premier baiser et de sa première caresse, qui furent brûlures de soleil. Quels sont les mille mots qu'il a donnés au vent, aux vagues de la mer ou à la poussière, à un amour qui vint et ne vint pas? Quel est le poids de ce galet qu'il jeta enfant pour toucher les nervures du ciel Et quels sont ces autres 1000 mots pareils à des mains dont l'humble et invisible travail est de tisser le silence et la mémoire. Avant de partir, il me confie parler et se taire sont une seule et même chose. Cela est utile, car nous entrons dans les rêves des femmes et des hommes qui dorment. Voici les références des morceaux de Chostakovitch que vous avez entendus au cours de cette heure. Nous avons commencé avec le prélude et fugue numéro 7, puis ce fut l'allegro du quatuor numéro 1, suivi du deuxième mouvement de la 15e symphonie. Après cela, il y eut Lament for a Dead Child, donc Lamentation pour un enfant mort, un texte chanté à deux voix et issu de la poésie populaire juive. Vint enfin l'Andantino d'une danse fantastique. Et pour le dernier morceau qui vient de se terminer, c'était la fugue de son quintet avec piano. Si vous ne connaissez pas les œuvres de Chostakovitch, je vous engage vivement à les découvrir, que ce soit sa musique de chambre ou ses symphonies. Et si vous voulez en savoir plus sur l'homme et son époque, je vous conseille la lecture d'un livre qui date de 2016, écrit par l'écrivain anglais Julian Barnes, qui s'appelle « Le fracas du temps », publié au Mercure de France. Voilà, vous avez de quoi vous occuper d'ici à la prochaine émission, qui sera le jeudi 15 mai. À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.